C'est clair.
La commune,
ma
mais lisez, lisez. Là où Jacob pratique la loi de Moïse, chez David.
Chez David.
Où chez David. Bon. Et c'est ça qui s'appelle Israël. Et regardez l'histoire. Nous étions le peuple juif pendant 2000 ans. Subitement, on revient chez David, on s'appelle Israël. Vous n'avez pas remarqué? Bon. Alors, en tout cas, pour revenir à ce problème, vous avez cette lecture dans le commentaire de Rashi sur le message que Jacob envoie à Ésaü dans cette paracha de Vaishlav. Lorsqu'il dit « In lavan garti va'echar adrata ». Regardez bien ce que Rashi dit là-dedans. « In lavan garti, j'ai séjourné chez Lavan, mais rassure-toi, je n'ai pas profité de tes bénédictions. Je suis resté étranger. Okay » Metek, je me rappelle que je suis de la terre de David, même quand je suis chez Laban. Deuxième réponse, nous dit Rashi, et bien que j'étais chez Laban, Tariag Mizvot Shamarti, Moshe. Vous voyez que Rashi était kabbaliste. C'est-à-dire, c'est les deux Rashi, David et Moshe, que vous avez dans la main. Alors il faut les trois pour être Israël. Phrase non payée par l'agent juif. Mais vous avez compris ce qui se passe. Ah, c'est ça la communauté.
Oui. Il m'avait dit qu'on a 40 ans pour attendre, on n'est plus dans la salle, comme vous regardez. J'ai une réponse, parce que j'ai référé à vous. Dimanche dernier, j'ai écouté, j'écoute souvent, écoute Israël.
Oui.
Et il y avait été la question de l'amitié judéo-chrétienne. Et on a dit, il y avait un jour à Pâche, et il y avait un charpentier, c'est pas tout, et puis et on disait, l'amitié judéo-chrétienne, pas de belle. Et celui qui dirigeait les discussions a dit, à l'autre niveau de la patience a dit, on n'aura pas de patience, on n'aura pas de temps.
Très bien.
Et moi, je réponds pas quoi, parce que je me souviens ce que vous avez dit l'année dernière, vous avez dit, on peut peut-être s'entendre, on peut, parce que c'est facile de s'entendre avec les musulmans, avec les chrétiens, les flammes. Alors je me suis dit, lorsque c'est bien, alors cette fois, les chrétiens, de ne pas être en train de commettre des erreurs, je me suis dit, en me rappelant ce que vous avez dit, vous avez raison, puisque nous disons qu'on ne peut jamais en avoir, il en est.
Bien. Alors écoutez, malheureusement, vous m'avez posé ça trop tard aujourd'hui, mais en six phrases. Oui, en six phrases, non, c'est parce que j'ai déjà à midi et demi autre chose. Regardez, ça c'est un sujet pour lequel il faudrait qu'on ait un séminaire complet. Mais je vais vous rappeler exactement ce que j'ai dit, d'abord pour les 40 ans. Si vous vous rappelez, c'était hier ou avant-hier, je dis c'est un âge mental. Je vous fais confiance, vous les avez déjà. Et sinon, vous ne poseriez pas cette question. Et d'autre part, ce que j'avais dit, c'est que nous avons avec les musulmans un problème politique, pas théologique. Au niveau théologique, c'est très facile de s'entendre s'il n'y a pas le problème politique. Alors que ce que nous avons avec les chrétiens, c'est un problème théologique. Et tant que les chrétiens se prétendaient Israël, il n'y a pas moyen de s'entendre. Vous comprenez, on ne peut pas avoir de dialogue franc, sain, S-A-I-N, moral, avec quelqu'un qui vient me dire « ton livre, mais pas toi, ton pays, mais pas toi ». Ton nom, mais pas toi, ta ville, mais pas toi, ton Dieu, mais pas toi, toi, mais pas toi, parce que toi, c'est moi. comment voulez-vous qu'on se parle? Vous comprenez? À moi, vous demandez. comme on dit en hébreu, Veli à ta Omer, et mort est le hasard. Ça, vous êtes bien tombé. Ça fait 50 ans que je dis ça. Bien, je crois que c'est peut-être la neige qui. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas moi qui suis pas là. Hein. Attendez, moi-même, avant d'entrer dans le cours d'aujourd'hui, mais nous avons encore dimanche, hein. Je voudrais, pour ceux qui ont assisté hier soir, vous donner quelques petites explications. Bon, vous avez remarqué que... étant donné la difficulté, si vous voulez, d'un dialogue avec des théologiens, philosophes, ne connaissant pas l'hébreu en plus, et faisant des exégèses bibliques, c'était difficile. Et vous avez remarqué que j'ai un peu protégé le conférencier parce que les réactions de la salle étaient un petit peu dures. Je crois qu'il les a un peu provoqués, mais enfin, très naïvement. Il ne s'attendait pas du tout à une telle réaction. Et il y avait un peu de ça. Il était très philosophe. Et, comment dire, en tout cas, il a préparé un texte qui a dû lui coûter énormément de travail, donc il méritait de la considération. Je crois que parmi toutes les remarques qui ont été dites hier, je voudrais revenir sur une d'entre elles, qui me semble assez importante. C'était les remarques corollaires de la notion de séparation dans la notion de création, et qui a été gâchée par le fait qu'il niait le commencement, et donc le mot de création avait un tout autre sens. Je pense que vous l'avez bien compris. Et alors là, je voudrais revenir malgré tout sur une erreur de lecture, mais qui ne vient pas simplement du fait qu'il s'agissait d'un nom hébraïsant, mais il s'agit effectivement d'une thèse connue, qui est d'origine gnostique, et qui parfois envahit les théologies non hébraïques. C'est le fait de l'idée que la création, c'est pour dire, quelqu'un hier dans la salle l'a cité en hébreu, pour dire non pas bria mais yetzira, c'est-à-dire l'agencement d'une matière première informe et vive, ce qui traduirait tohu vavohu, et que ce serait par façon de parler qu'on dirait création, on voudrait bria, on voudrait dire yetzira, et ça consistait d'une certaine manière à projeter sur Bria le sens de Yetzira, et c'est là un dualisme fondamental. Enfin, l'idée qu'il y avait une matière première préexistante, nous disons en hébreu Homer Kadmon, qui aurait été de toute éternité coexistante à Dieu, et qui aurait été de toute éternité une matière informée, non formée, disons, et que, au fond, ce que la Torah voudrait dire, c'est que l'acte de création consisterait à un certain moment a décidé de mettre une forme dans cette matière. Et ça, c'est pas du tout la notion de création de la Bible, c'est pas du tout le Dieu créateur de la Bible, et qui fonde la moralité sur la notion de création, je reviendrai d'ailleurs encore aujourd'hui et dimanche. Mais en fait, ça va me donner, si vous voulez, l'occasion de préciser le sens, du point de vue de la Kabbalah, de ce qu'on traduit par chaos, tohu vavohu, et je m'appuierai essentiellement dans cette analyse, que je vais essayer de faire très brève, sur l'enseignement du Sefer HaBahir, qui est une des autres sources de la tradition kabbalistique, parallèle au Zohar. Ce que nous avons appris jusqu'à présent, c'est que le Tohu Vavohu, c'est le résultat de Shvirat HaKelim. Ceci dans l'ordre de l'enseignement du Hari. Et nous relisons les versets, j'espère que ce n'est pas la peine que vous ayez des livres, vous les avez en tête, c'est les versets que vous devez déjà connaître par cœur. Je les relis d'abord en hébreu et simultanément en français. Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'et Haaretz v'Haaretz Haïta tohu vavohu. Et nous traduisons et la terre est devenue tohu vavohu, qu'on traduit par chaos. Je vais garder tohu vavohu provisoirement. Alors que l'interprétation du révérend père, je ne sais plus comment il s'appelait, Geoffrey, était de dire or la terre était antérieurement à la création. Tout à vous. Et du ciel, on ne parle pas, et ça ne les préoccupe pas. Et le ciel, comment il est? Vous voyez ce qui manquait. Ce qui manquait, au fond, c'est ce que j'ai dit simplement pour ceux qui avaient écouté le cours du matin. Je pense que ça a dû être hermétique pour lui, et c'est tout à fait normal. Tout ce que nous avons étudié ces jours-ci, c'est-à-dire qu'effectivement, il refuse la notion de création définie, création ex nihilo, parce qu'elle est irrationnelle, mais par là même, parce qu'il ne la comprend pas, il la refuse et il n'y a pas possibilité pour lui d'aménager le raisonnement que nous avons vu à travers la Kabbalah, c'est-à-dire qu'il y a, sauf Bria, Yesh Be'ayin, et que cette Bria, Yesh Be'ayin, est bien une création à partir de rien, nous verrons à quel niveau. Bon, en tout cas, le côté du Keli, ça vous est déjà familier, c'est-à-dire le côté de la créature en tant que créature, celui-là apparaît ex nihilo, littéralement. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer la dialectique qu'enseigne Rav Ashlag sur l'enseignement du Hari, de ces quatre moments de transformation de l'être qui donne l'être en l'être qui reçoit l'être. Mais l'aspect de l'être, qui se définit comme étant l'être qui reçoit l'être, apparaît à partir de rien, et définit la créature en tant que telle. Est-ce que c'est clair jusque-là? Non, mais c'est ça que nous allons étudier pendant ces deux jours. Alors, très brièvement, pour vous montrer l'impossibilité de réfléchir, d'analyser des traductions de la Bible. Et quelle est la traduction qu'il a citée ? Et la terre était informe et vide. Ce qui ne veut rien dire. Je dirais la terre était informe et vide. Nous allons très brièvement voir ce qu'il y a dans les termes de tohu va-bohu, d'après l'enseignement de la Kabbalah, et ensuite recoder sur notre vocabulaire du Har. Alors, je vous mets. Pardon ? Voilà. La gnose, c'est la prétention de certaines sectes de connaître par le génie humain, et donc apparemment au début par la méthode philosophique, okay, ce que la prophétie aurait révélé, mais elle n'a rien révélé. Vous voyez, parce que je... c'est ça la gnose. Tableau. Tohu va vous. Bien. Alors, je vous rappelle le verset. Vehar et tsaïta, tohu va bohu, c'est-à-dire simultanéité de tohu et de bohu. Vechosher, abenetero. Alors, je vais simplement vous faire très rapidement une remarque. Tehom et tohu se ressemblent. Okay. Alors, il y a une particularité de la langue hébraïque dans le sens de la Kabbalah. Chaque fois que vous avez un même à la fin, cela indique la réalisation, la totalisation, par exemple le même du pluriel, la réalisation. Je ne vais pas vous employer des termes trop techniques. Et si c'est la réalisation dans le temps, il faudrait dire l'inchronisation ou l'actualisation. Et bon, mais vous voyez quelle est l'idée générale. Le même, c'est une récapitulation de l'entrée dans la réalité. Par exemple, c'est le sens de la lettre même dans la grammaire classique. Si vous voulez dire quelque chose qui provient d'eux, on dit « mais okay, », et qui aboutit à, on dit « même ». Et alors, c'est la différence entre le même ouvert, celui qui montre la provenance, et le même fermé, celui qui montre l'achèvement. Et bien entendu, vous avez de nouveau le mot « maïm », mais c'est une coïncidence. Et alors, et ça se lit « même ».
Même sophite, vous dire, c'est le truc qui...
Même sophite, c'est ce qui totalise, réalise, achève, complémentarise. Donc, vous savez, toutes ces notions-là manquent dans les langues non traditionnelles. Okay? Et le même ouvert, c'est le même qui montre l'origine. Le machal. Et par exemple, le même qui montre le geste du participe présent, ani medaber. Okay? Le dabar entre dans la réalité, ani medaber. Je crois que j'avais signalé à Orsay déjà il y a très longtemps qu'il y a une seule langue, à ma connaissance, qui a gardé cette forme, c'est la forme progressive en anglais. Ça se dit encore comme ça, la forme progressive. Okay? Je suis en train de faire quelque chose. Anime d'abord. Okay? Par exemple, comment vous diriez cela en anglais ? Je suis parlant. Nahon, c'est cela. Bon. Tiens, j'ai été frappé, je vous fais cette parenthèse, peut-être que je vous en parle souvent, parce que ça m'a beaucoup frappé. Peut-être que ça intéressera des linguistes anglicistes parmi vous, qu'une des langues où la traduction de l'hébreu est quand même la plus aisée, c'est l'anglais. Et par opposition, peut-être l'allemand, disent les germanistes d'ailleurs aussi un peu, mais par opposition au français aussi, vraiment très difficile.
Et d'ailleurs, c'est dans ces langues-là qu'on trouve l'homotéchie de Mayim, que veuillez le démarrer,
passe, passeur, ou en arabe aussi. Mais c'est peut-être pas ce problème. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai reçu une fois une explication, vous me direz ce que ça vaut, c'est que la langue anglaise classique se serait constituée précisément d'après les traductions de la Bible. Alors il y aurait là un...
Il y a juste un élément positif à conserver. Pour lui, l'original, quand il parle de la langue de la Bible, en original, il a dit en anglais. Il a découvert la Bible en la lisant en anglais.
Oui. Oui, et malgré ça, ils disent ce qu'ils disent. Bon.
Il y a une autre chose que en anglais, par exemple, gaélique, j'avais un étudiant avec moi à Jardin qui avait fait des rapports entre la structure du gaélique et l'hébreu. C'est absolument faramineux. C'est exactement la même chose.
Mais ça fait plaisir à De Gaulle. Et il s'est pris pour le Goël. Bien, alors le nom. Il y a une trace de cela dans un verset de la Bible. Galahed. Et Galahed, c'est les tumulus gaéliques. Bon, je referme la parenthèse. Et alors, vous voyez, le tohu va nous mener à l'idée de théo. Alors, ça m'aide pour aller plus facilement vous expliquer ces deux idées qu'il y a là. Le tohu, c'est le mot dont le verset se sert pour dire la présence de la matière la plus diluée possible. Si vous voulez, la molécule la moins, comment on dit, complexifiée, complexe, concentrée, alors que, ça c'est tohu, alors que bohu, que en particulier le Sefer Bahir lit bohu, bohu, qui m'appuierait d'ailleurs sur l'explication de Rashi, tohu liot tohe, bohu, ça veut dire en lui et lui, alors que ce terme de bohu va se réaliser beaucoup plus tard dans le récit par le mot de behema. Et donc le vocable de la Kabbalah dans le Sefer HaBahir, c'est tehom et behom. Oui, le bohu, le tohu se réalise tout de suite dans ce terme de tehom qui signifie le vide. Alors que le bohu va être en cours d'histoire jusqu'à sa complexité évolutionniste, pour me raccrocher à la séance de Jacques Goldberg, jusqu'à la Behema, que nous allons lire Behema Bahma. Vous suivez?
Oui.
Bon. Ça veut dire qu'il y a simultanéité de la matière la plus diluée et de la matière la plus concentrée, en état de désordre, en état de chaos. Et c'est ça l'idée de chaos en hébreu. Tohu va bohu. Ça ne veut pas dire impur. Informe et vide, okay? C'est une autre idée, ça c'est une idée un peu de philosophie grecque, mais tohu va bohu, ça veut dire que la matière donnée au monde a deux dimensions, une qui va vers le vide et une qui va vers la réalité de la matière la plus complexe et qui est la chair animale, bahma, behema. Vous suivez? Les hébraïsans, ça vous fait découvrir des mondes, okay? Ceux qui entendent l'hébreu. Bon. Et alors,
situer ces deux notions par rapport à celle de Golem.
C'est-à-dire, la notion de Golem serait équivalente à Bahama, à Behem, okay? Golem. Mais vous voyez, là, j'aurai peut-être l'occasion de revenir dimanche après-midi en me recodant à l'analyse de Jacques Goldberg sur l'évolutionnisme. Je vous donne tout de suite le principe, en tout cas. Faites bien attention à cela. Okay? Ce n'est pas du tout qu'un animal soit devenu l'homme. Nous allons voir qu'il y a une solution de continuité. Pour l'enseignement biblique, c'est l'inverse. Et l'animal, c'est un être vivant qui n'est pas arrivé à être l'homme. Et l'homme, c'est un être vivant qui ne s'est pas arrêté au stade de l'animal. Est-ce que c'est clair? Et par contre, vous avez là une catégorie qui est radicalement en dehors de la problématique évolutionniste classique, matérialiste, okay, fût-ce celle de Théard de Chardin. Qui a été décidé hier soir. Okay. Bien attention. Okay. C'est-à-dire que l'évolution de la matière de la plus complexifiée possible, ça, je pense que s'il y a des biologistes parmi vous, ils peuvent l'expliquer, c'est que la cellule la plus lourde, c'est la cellule moléculaire, comment on appelle ça, qui devient de la chair. C'est un autre problème. Comment appelle-t-on ça? La cellule... Non, ça veut dire... Non, je veux dire la cellule protéidique. C'est clair?
C'est la molécule protéidique.
D'accord. Je veux dire, la molécule la plus lourde, c'est la molécule de la chair. C-H-A-I-R. B-M. Bassar. Okay? La molécule la plus légère, la plus diluée, c'est celle qui... Elle va vers le vide, et qui s'appelle Théhom. Vous voyez, le Tohu se réalise en Théhom. Le Bohu a toute une histoire que la Torah nous raconte à travers l'œuvre des six jours, et qui arrive à la Behema, pas au Adam. Le Adam, c'est celui qui porte le nom Mi, un quelqu'un. La Behema, c'est le stade le plus avancé du Ma. En elle, il y a le Ma. Ma, c'est l'impersonnel. Le mi, c'est le personnel. Est-ce que vous comprenez l'équivalence? C'est-à-dire qu'il y a une solution de continuité entre la Behema et le Adam, que je vais essayer de vous montrer par un petit schéma simple. C'est-à-dire que Imaginons que la ligne du projet Adam soit là, la coordonnée du projet Adam soit là. Eh bien, la BMA n'arrive qu'à être asymptote. À cela, elle n'arrive jamais à coïncider. Elle reste Bahma. L'homme, c'est Mi. Adam, ça équivaut au mot Mi. Adam Stam, c'est encore BMA. Mais Adam, Vaihi, Adam, Nefesh Chaya, c'est 45. Mi. Alors, oui, la BMA n'arrive qu'à frôler ce projet qu'elle n'arrive pas à rejoindre. Et d'ailleurs, avec l'histoire qu'on raconte du serpent, mais ce n'était pas un serpent, mais peu importe, c'est le serpent, et il retombe, okay, alors que la courbe de l'homme commence. Il y a une solution continue. Est-ce que c'est clair jusque bon. Ça veut dire que quand il y a simultanéité des deux dimensions contradictoires de l'être de matière, il y a obscurité et silence. Verrocher, Alpenetel. Oui, le Tohu Rabohu, Tohu donnera le Théhom, Bohu donnera la Behema, au niveau de la matière du monde. Bien, c'est ce que je voulais préciser, et on revient à notre sujet.
Oui. Vavohu, c'est un Vav conversif ?
Non, c'est un Vav conjonctif. Tohu, Va, Bohu. C'était simultanément Tohu et Bohu. D'où recherche. Et c'est, par exemple, les trains d'ondes musicales. Hein, vous savez très bien que quand il y a deux trains d'ondes qui se chevauchent, là où ça se chevauche, il y a une zone de silence. Hein. Lorsqu'il y a deux trains de lumière, il y a une zone d'obscurité.
Ça s'appelle l'inversion de phase.
Pardon ?
Ça s'appelle l'inversion de phase.
Bien fait. Bien. Alors, aujourd'hui, nous commençons à entreprendre l'analyse de la notion de tikkun. Alors je vous rappelle brièvement, nous avons appris qu'est-ce que c'est Bria Yesh Me'ayin, ça nous a mené à la notion de Tzimtzum. Ensuite, Bria Yesh Be'ayin, ça nous a mené à la notion de Shvirat HaKelim. Et maintenant nous allons comprendre la notion de tikkun, c'est-à-dire quelle est la finalité de ce processus, okay, qui fait exister un monde. Si vous voulez poser une question. Plus fort.
Vous avez dit que le kémi, finalement la racine d'être kémi, est supérieure à la racine d'être kémi.
Et plus haut, oui.
Alors, plusieurs questions. Alors, donc, première remarque. D'abord, quand on voit que l'être kémi est cave, donc plus on arrive aux sphérotes qui vont être au centre, plus il y a de risques, c'est-à-dire plus on descend, plus il y a de risques d'être en train de débris.
De Shvirat HaKelim. Voilà, je vais répondre. Peut-être ça implique aussi les autres questions.
Bon.
Oui.
Et la deuxième question, c'est à propos des deux sortes de kémi. Il y en a un qui est za et l'autre qui est av.
Oui.
Et en fonction de la première remarque que vous avez faite, on pourrait imaginer que l'art, c'est le plus. C'est la lumière transparente, passe, et donc il n'y a pas de Shvirat HaKelim.
D'accord.
Or, je sens, par mon hypothèse, c'est que c'est l'autre qui doit être plus important.
Bon, alors je vais expliquer. D'ailleurs, la réponse à la première question est dans la deuxième question.
Que j'ai posé.
C'est-à-dire, l'objectif, si on a bien compris, c'est de faire exister un Keli Zah. Est-ce que c'est clair? Puisque la lumière était préexistante. Celle qui nous advient dans le Halal, c'est une lumière diminuée, mais c'est une Beria Yesh Meyesh qui s'appelle Yetzira. Comme on dit le verset, Yotzer Or, ou Boré Chosher. Okay. Est-ce que c'est clair? C'est le Keli qui est l'objet de Beria Yesh Me'ayin. Okay. Par conséquent, l'objectif du Créateur, c'est de faire exister le Keli. Le Or, il le possède. Okay. Attendez, c'est pas fini. C'est de faire exister le Keli. Alors, de quel Keli on va s'occuper? Précisément du Keli Av, pour le rendre Zah. Voilà, qui avait tort.
Alors, c'est celui qui authentifie la notion de la création.
Et tu comprends pourquoi le chorège du Keli est plus haut que le chorège du... Bon. C'est clair ce qui s'est passé là? Top. Et on dit dans le Talmud, un chameau, on ne cherche pas s'il est cachère. Un agneau, on cherche qu'il est cachère. Vous voyez, c'est clair. D'un Keli Zah, on ne s'occupe pas, il est Zah. C'est d'un Keli Av qu'on va s'occuper. Et toute l'histoire, c'est le tikkun de Shvirat HaKelim.
Quoi, chameau?
Un chameau, a priori, il n'est pas cachère. Alors, on ne cherche pas s'il est cachère, il n'est pas cachère. Un agneau pourrait être cachère. On cherche s'il est vraiment cachère. Que ce soit Rothenberg, que ce soit... Francfortel. Bon. Qu'est-ce ? Pardon ? Oui. Eh bien, nous avons défini cette opacité hier. L'opacité consiste dans le fait que le keli d'une mida n'est pas prêt à recevoir une autre mida. Il se fait opaque à l'autre mida. Alors l'autre mida qui offre sa lumière l'offre avec impétuosité et le brise. Entendez ça en langage moral. Et ensuite vous concluez vous-même, vous induisez ou déduisez pour l'ontologie. Vous comprenez ? Rappelez-vous le problème de l'unité des valeurs. Alors je reprends l'analyse, parce que c'est important, même si c'est que l'année prochaine qu'on voit la suite, c'est important que le début soit clair. De toute façon, vous avez 40 ans pour arriver au commencement. Nous sommes en train de faire... Une minute. Nous sommes en train de faire les introductions de la préface à la première partie de l'avertissement qui sera là, elle-même, là, octobre. Et alors, le temps vous avez, il y a un seul problème, si les Russes vont vous laisser le temps. Bon, c'est tout, mais le temps vous avez l'éternité. Alors, revenons au problème.
Vous voyez, nous donner le truc qu'on aura pris ce cours dans le prochain.
Votre âme s'en rappellera, je vous promets. Même si vous avez oublié. Alors, mais n'oubliez pas. Alors, attendez, je voudrais terminer. Vous m'avez fait oublier de quoi je voulais parler.
J'ai entendu ce matin une illustration sur ce que tu dis de ce que ne supporte pas la lumière qui contient des eaux. On posait à la radio un autre problème pour les radios régionales, parce que le problème qui concerne Lyon n'intéresse pas du tout les habitants de Saint-Étienne. Et c'est la même région.
Oui. Je vous donne un exemple simple. Voilà, l'être humain est sollicité par différents absolus de valeur qui tous sont des absolus de valeur et qui tous demandent à être reçus, effectués. Alors imaginez un tempérament humain, une âme, une personne qui est sensible à la valeur du bien mais n'est pas sensible à la valeur du beau. Alors, son keli accepte la lumière du bien, mais pas la lumière du beau. Et comme le projet du Créateur, c'est que les 10 sphirotes doivent devenir la personne humaine, la valeur du beau détruit le keli de la valeur du bien. Est-ce que c'est clair ? Je vais vous donner un autre exemple. Voilà, c'est ça, Shvirat HaKeli. Tant qu'on n'a pas réussi l'unité des valeurs, le keli est en perpétuel Shvirat HaKeli. Non, laissez-moi parler. Et je vais donner un autre exemple. Et ça nous a été raconté par un inspecteur de l'enseignement primaire en Israël qui avait posé une question d'examen dans des classes d'élèves, des tout-petits, en demandant, attendez que je me rappelle comment s'appellent les deux lacs, pourquoi les eaux du Kinneret sont douces et les eaux de la mer Morte sont salées. Et un petit gosse répond comme ça. Parce que le Kinneret reçoit les eaux du Jourdain et les envoie à la mer Morte, tandis que la mer Morte reçoit les eaux du Kinneret, mais les garde. Ouais. Non. Et alors, à la radio, c'était très joli quand on a étudié ça. On a fait une enquête. C'était un petit d'une famille chassite. Pour lui, c'était atavique de répondre comme ça. Et c'est très joli. C'est exactement ça. Si le keli veut garder la lumière qu'il reçoit, c'est ça être rave, abé, ken. Alors la lumière le fait éclater, parce qu'elle veut traverser. S'il est capable, c'est sa zach, avoir du srout, de le rendre plus bas, de le retransmettre, alors la lumière le traverse et il garde cette lumière. Parce que vous savez très bien que le propre de la lumière, c'est d'éclairer toutes les étapes qu'elle traverse. Alors il faut se faire transparent à la valeur, et où c'est important encore pour pouvoir tenir le coup. Celui qui se fait opaque, eh bien, il éclate. Vous voyez, c'est clair. Et où c'est important ? C'est important dans la dialectique du problème moral. Parce que nous allons voir, peut-être aujourd'hui ou dimanche, que, et c'est pourquoi je vous ai cité avec beaucoup de contentement le thème du livre de Yankelevitch, okay, que ce qu'il appelle, lui, le paradoxe de la moralité, et tout ça, c'est dans le Rav Hashlag. Si j'avais le temps, j'ai fait un petit article, au moins pour Information Juive, pour remercier Yankelevitch d'avoir lu le Rav Hashlag sans l'avoir lu. Oui, l'atavisme des... Comment ? Des mérites. Des mérites. Vous voyez, c'est une espèce de, d'intuition qui vient de son être de juif. Mais de son inconscient, de son être de juif. Et alors, le Rav Ashlag, sur le Hari, explique de la manière suivante. Nous sommes donnés à une contradiction. Pour être, il faut que je reçoive l'être. Bon. Et ça s'appelle, au niveau du problème moral, l'égoïsme. Mais pour être vraiment, il faut que je sois à l'imitation, elle, apostrophe, de Dieu qui donne l'être, c'est-à-dire que je donne l'être. Et c'est le souci de la conscience morale. C'est une contradiction insoluble. Okay? Et bien nous verrons qu'il y a une seule possibilité, c'est de recevoir pour donner. Recevoir pour recevoir, c'est le mal. Donner pour donner, c'est la folie. Donner en vue de recevoir, c'est la religion païenne. Recevoir pour donner, c'est la tradition. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que quand je reçois pour donner, je satisfais aux deux exigences contradictoires à la fois. Si c'est dans cet ordre, alors les deux exigences contradictoires sont satisfaites. Parce que pour être, il faut que je reçoive. Mais être vraiment, être vrai, c'est donner. Mais si je donne sans recevoir, je ne suis pas. C'est la dialectique impossible entre l'égoïsme et l'altruisme. Et toutes les philosophies se sont écartelées entre des réponses feintes, des réponses factices. Philosophie de l'égoïsme, et qu'est-ce que tu fais avec l'altruisme? Alors conscience malheureuse. Philosophie de l'altruisme, et qu'est-ce que tu fais avec l'égoïsme? Alors conscience malheureuse. Vous voyez à peu près le problème. Et donc, c'est ce problème de la zakout, qui s'appelle, au niveau du registre vocabulaire moral, le zechout. Hein? Le zechout, c'est se faire keli zach, c'est-à-dire, je reçois en vue de donner. Et l'égoïsme est légitime, et l'altruisme est légitime, dans cet ordre-là. Si c'est pas dans cet ordre-là, et l'un et l'autre, c'est la catastrophe. L'un est l'immoralité, l'égoïsme, et l'autre, c'est la folie, la mystique. La mystique folle, la mystique des fous, plus exactement. Et je m'explique. Imaginez ce que ça peut être, l'art pour l'art, au niveau ontologique et moral. Ça veut dire, je suis celui qui donne, alors tu ne reçois pas, tu ne manges pas, dirait Abraham, tu n'as pas de créateur. Vous avez compris en quoi cette mystique-là, c'est la mystique des fous. C'est la mystique de celui qui se prend pour Dieu. Tout simplement. Est-ce que c'est clair? C'est le refus du problème moral, au niveau de cette exigence mystique. Le problème moral a deux temps. Reconnaître que j'ai un créateur. Deuxièmement, décider d'être comme lui, à l'image de lui au niveau moral, celui qui donne l'être et pas qui reçoit. Et comment je vais faire, moi la créature? Eh bien, il faut que je reçoive et que je donne. Mais dans cet ordre. Est-ce que c'est clair? Oui, vous avez compris l'essentiel. Ça, c'est le mécanisme du tikkun. Okay.
On ne peut donner que si on suit ses sources.
Oui, oui, et donner sa vie si c'est des sources. Mayano. Non.
Bonjour à Germanie. Bonjour à Germanie.
Germanite. J'en sors pas du monde ashkénaz. Je m'appelle Ashkenazi, elle s'appelle Bonjour à Germanite. Le keli du bien.
Ah oui.
Parce que, oui, oui, alors, je reviens sur l'analyse. Ça veut dire que un beau qui ne serait pas bien, un bien qui ne serait pas beau, c'est pas le chemin de la sainteté. C'est l'hypertrophie de valeurs divergentes qui font des idolâtries. Mais oui, c'est dans le je-tu. Okay? Bien sûr, Buber était juif.
Il n'y a pas de hiérarchie dans cette.
Oui, c'est une hiérarchie des sphirotes. Mais comme nous avons tout le tikkun à faire, la hiérarchie n'est d'autre que le moment de tikkun où chacun se trouve. Est-ce que, mais au niveau de la valeur absolue de sainteté, toutes les mitzvot sont les mitzvot. Et puis, la valeur de la hiérarchie dépend du moment du cheminement du tikkun où je me trouve.
Finalement, c'était dans le dessin que vous avez fait hier, à partir du centre du rond, il faut remonter.
Oui.
Donc, ça dépend de à quel endroit du rayon nous sommes.
Exactement. Alors, vous voyez, à partir de ce moment précis, je veux vous parler de la théorie de la réincarnation. Parce que rien ne serait plus compréhensible si nous admettions une égalité théorique de toute créature au même instant de l'histoire. Vous comprenez ? Arrive là des tas de problèmes insolubles et qui nous font accuser, entre guillemets, le créateur d'injustice. Okay ? Chacun est à un moment très précis de cette histoire de son tikkun. Et puis, nous sommes en simultané dans Rolamazé. Okay ? Est-ce que c'est clair ? Et retenez bien cela, je vous en parlerai souvent. La doctrine de la réincarnation, qu'on appelle Gilgul, n'est pas imposée par l'orthodoxie juive. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne peut pas imposer une mitzvah comme condition de l'authenticité d'une tradition, on ne peut l'imposer qu'à celui qui est capable de la comprendre. Enfin, non, je me suis mal exprimé. Qu'à celui, parce que comprendre ça veut dire intellectuel, c'est pas ce que je voulais dire. Qu'à celui qui est dans le cas de ce principe. Il ne s'agit pas des mitzvot des actes, mais des mitzvot des articles de foi. Okay ? Parce que seul peut réaliser de quoi il s'agit celui qui expérimente déjà qu'il est dans ce cas. Celui qui en a expérience par lui-même. Parce que sinon, il aura tendance à dire « Ah, ça, je ne crois pas. Ma raison ne croit pas. Okay » Parce qu'elle n'est pas informée par l'expérience spirituelle. Et effectivement, la raison ne comprend pas cette histoire-là. Tout ça, ça nous vient de la révélation par la prophétie. La raison ne peut qu'exposer, c'est pas ça qu'elle découvre. Et si elle y pense, c'est par hypothèse. Vous vous rappelez des principes que nous avons. Je veux dire, ce n'est que par hypothèse. Et alors, il aurait tendance à dire, eh bien, ça, je ne crois pas. Mais si c'était un article de foi sine qua non de l'appartenance à la communauté juive, ça veut dire qu'il serait excommunié. Et on n'excommunie pas quelqu'un parce qu'il ne croit pas. Il ne croit pas, c'est qu'il ne croit pas. Et Dieu lui a donné l'être d'Israël, et aucun tribunal rabbinique ne peut le lui enlever à cause d'une idée, parce que ça ne fait pas le poids. L'être d'Israël donné par le Créateur est une idée de quelqu'un qui se trompe. Okay ? Il pense, il croit ce qu'il pense. Ben, c'est pas grave. Sauf s'il dit, c'est ça que la Torah dit. Alors à ce moment-là, on l'appelle Zaken Mamré, et boire la boue. Vous comprenez la différence ? C'est-à-dire, un juif, on n'a jamais excommunié parce qu'il dit une bêtise et il y croit. Okay ? On dit Tehillim pour lui. Mais s'il dit, c'est ça que la Torah veut dire, alors là, c'est grave. Vous comprenez le problème ? Bon. Alors c'est pourquoi le principe du Gilgul n'est pas imposé comme croyance par l'orthodoxie juive. Parce que les rabbins savent très bien que dans le temps, le Caligula, dans le temps noir dans lequel nous sommes entrés du point de vue de la connaissance spirituelle, eh bien vous aurez des juifs très pratiquants qui vous diront « Ah ça je crois pas hein ». Alors on va les excommunier pour ça. Hein, seulement il faut bien comprendre que c'est le seul principe qui explique et évacue tous ces problèmes posés, tous les problèmes posés sur l'incompréhension de la destinée de chacun. Est-ce que c'est clair ? Bon. Alors là, j'aurais tendance à dire, et je vous cite un de mes maîtres, qui nous disait, là où il faut comprendre, il ne faut pas croire. Et là où il faut croire, il ne faut pas comprendre. Alors choisissez, chacun d'après son expérience, par rapport à ce principe de Torah Tagilguli. Ça y est, c'est clair ? Oui, qu'est-ce que vous voulez dire ?
Est-ce qu'il n'y a pas de moyen de tout savoir où on en est, justement ?
On ne le sait, on ne le sait que quand c'est la dernière chance.
Quand on est arrivé au Tikkun ?
Pardon ?
C'est quand on est arrivé au Tikkun ?
Oui, oui. Non, c'est quand on est arrivé à la dernière chance qui est donnée. Ça dirait la plus réussie ou boire la boue. Non, c'est sérieux cette histoire-là. Vous comprenez ? On ne nous a pas donné un jeu. Avec la martingale. Okay. Vous comprenez ce que je veux dire ? Okay. L'histoire humaine, c'est une mise à l'épreuve. Et alors, on ne nous a pas donné la règle du jeu. Alors, on nous l'a fait cadeau à la fin. À la fin.
La dernière chance, après, c'est fini. C'est comme le pharaon, on a pu le retrouver.
J'ai pas dit la suite.
Non,
j'ai pas dit. Allez, vous la direz. Non, écoutez,
j'ai lu un livre à ce sujet fait par des médecins. Ont fait des quantités d'enquêtes sur des gens qui étaient dans le coma.
qui sont revenus dans une mort clinique, et qui tous font des témoignages qui concordent absolument sur, sur un être de lumière qui vient les chercher, et enfin tout ce qu'on dit sur la vie de l'âme,
bon.
Est tellement merveilleuse que le retour sur Terre est horrible.
D'accord.
Tous les témoignages concordent, même sans faire reconfirmation.
D'accord. Alors je vais vous dire, surtout à votre âge, j'allais dire à notre âge, il ne faut pas perdre du temps à penser à ces choses-là, parce que ça donne le vertige, et que vous êtes jeune, je ne sais pas comment vous dire, il faut vivre, et après un certain âge, vous vous occuperez de ces choses-là. C'est pour ça que je vous ai répondu comme ça. On ne s'occupe pas de ça. Hein? Nous avons...
C'est pas dans ce sens-là, je voulais dire, justement, dans cette étape, dans cet effort d'élévation...
Attendez, je n'ai pas fini de vous répondre. Je veux dire, soi-même, on commence. Soi-même, on ne peut pas savoir. Il n'y a que celui qui a un cran supérieur qui peut voir. C'est-à-dire, le maître, c'est pour l'élève. Mais l'élève ne peut pas savoir pour lui-même. Et en général, le maître ne dit pas parce que l'élève doit rester libre. Il sait, il regarde, il observe. S'il y a une catastrophe, il donne un petit coup de pouce et encore. Parce que sinon, il faut recommencer la même épreuve. Et comme vous dites, remonter et revenir, fatigant.
Vous voyez. Et ce que vous allez sûrement dire sur
l'affichage. D'accord. Mais je comprends. Mais ce que je veux dire, écoutez, je voudrais vous rassurer. Par là, vous découvrez que notre monde est cohérent, que notre monde est plein de sens. Et il suffit de l'avoir perçu sur un point de sens pour savoir que tout est plein de sens. Mais ne cherchez pas des signes, ça rend fou. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair? C'est pour ça que la consigne de la tradition juive, c'est d'abord l'effectuation des vertus morales. La contemplation métaphysique, ça vient, c'est réservé aux vieillards. Alors, les jeunes gens qui jouent aux vieillards, je vais vous raconter une petite anecdote de vous savez, non, je me rappelle, quand j'étais au lycée, nous avions un professeur de lettres qui nous avait dit une chose qui m'est restée dans la mémoire. Il nous faisait faire des dissertations en vers. Et parce qu'il nous disait, un homme normal doit savoir versifier. Alors il disait, voilà, si vous faites des vers, quand vous avez 17 ans, vous avez fait des vers. Si vous faites des vers quand vous avez 70 ans, alors c'est peut-être que vous êtes poète. Vous comprenez? Alors, un adolescent de 17 ans qui est mystique, c'est qu'il a 17 ans. À la rigueur, il est peut-être romantique, et ça n'a rien à voir. S'il est mystique à 70 ans, là, ça commence à devenir sérieux, et c'est peut-être qu'il est mystique. Vous avez compris le problème. Okay. C'est pourquoi ça nous gêne, pour nous, les éducateurs traditionnalistes, ça nous gêne beaucoup les jeunes gens qui font des crises mystiques. Parce que peut-être ça ne concerne pas le rabbin, mais le professeur Baruch. Okay. Vous comprenez ce que je veux dire? Et faites bien attention à ça, si vous avez des élèves, ou des enfants, ou des jeunes gens, attention de savoir s'il s'agit de conduite psychologique ou de conduite spirituelle, comme ça ressemble, ça se mélange. Mais faut d'abord, c'est pas. Est-ce que c'est surtout jusqu'à un certain âge. Je veux dire une chose encore avant d'oublier. On raconte dans les Yeshivot. Un jour, un Rosh Yeshiva est rentré à l'heure de Mincha dans la synagogue de sa Yeshiva. D'habitude, à l'heure de Mincha, il est devant le mur pour prier. Il rentre et puis il a été obligé de s'arrêter au pas de la porte du Beit HaKnesset de la synagogue. Parce qu'il y avait un bachur yeshiva qui était en train de faire mincha. Alors il le regarde, il attend qu'il finisse, et il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il avait vu un jeune homme zigoté, mystique. Bon, vous voyez comment il prie, hein, les jeunes mystiques. Alors, il dit, qu'est-ce que tu fais? Alors le bachur yeshiva dit, j'ai fait comme toi. Il a dit, oui, mais c'est différent, moi je sais ce que je fais. Mais depuis, il n'a plus fait, parce qu'il a vu que vous avez vu le problème. J'ai compris. Bien. La ferveur dans le désordre. Okay. Et on ne sait pas quelle force on déclenche avec ces mouvements-là.
Okay. Excuse-moi, dans quelle mesure on enfreint la règle du jeu en consultant les mouvements? Parce que même comme tu l'as dit en introduction, qu'on étudie de plus en plus, ou en vulgarise la Kabbalah, on remarque un monde. Moi, je n'avais jamais entendu parler de Mekoubalim pendant 40 ans de ma vie. Et aujourd'hui, on entend parler de Mekoubalim, et viennent même à Paris, et j'entends des histoires de divulgation de Gilgoulim antérieurs.
Bien, alors je vais vous dire.
Je vais vous dire.
On a parlé un peu de ça dans l'introduction. La règle, c'est qu'on consulte les Mekoubalim pour une prière. Puisque la Chorma de la Kabbalah, c'est la Chorma de la Tfila. Vous vous rappelez de ça? Comment on va? Il y a des spécialistes. Bon, nous avions un enseignement très ancien dans le Zohar, que le temps de la Géoula viendrait par le mérite de l'étude du Zohar. Vous vous rappelez de cela? Eh bien, voilà, nous sommes dans ce temps-là. La Géoula et la Kabbalah ensemble. Remarquez? Pourquoi c'est le temps de l'éclatement, de, en tout cas comme phénomène de bibliothèque de la Kabbalah? C'est parce que c'est le temps de la Géoula. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, c'était avant la guerre mondiale, que j'ai commencé à étudier ces choses-là chez mon grand-père. On étudiait cela dans des manuscrits introuvables qu'on se transmettait de père en fils. Et aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle bibliothèque, vous avez un phénomène de librairie colossale. Les livres, je ne vous ai pas montré, je l'ai montré hier. Ça ne veut pas dire que vous allez les comprendre, mais ils sont là. Donc les kabbalistes, ce n'est pas des livres de charlatans, ce n'est pas des livres de professeurs d'université, ce n'est pas des livres de professeurs qui écrivent sur la Kabbale. C'est des livres des kabbalistes que les kabbalistes ont décidé d'éditer.